VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Dakar, 13h à Bangui, bienvenue à notre journal. En RCA, l'annonce du retrait du contingent congolais de la MINUSCA, la mission onusienne sur place, est diversement appréciée. Parmi les réactions, celle de l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en Centrafrique. Pour l'ambassadeur congolais Esdras Kambale-Baekwa, son pays prend acte de la décision de l'ONU, tout en déplorant la manière avec laquelle la décision a été prise.
Que ce soit les autres forces au sein de la MINUSCA, que ce soit au niveau de la population de la République centrafricaine, le contingent de la RDC est très apprécié. Je voudrais mettre à défi quiconque pourra me contredire. Mais ce contingent travaille sous l'ONU. C'est lui le mari. Quand il dit qu'il n'a plus besoin de sa femme ou d'un enfant, qu'est-ce que vous voulez que la RDC puisse faire? La RDC plie bagage et rentre au village. Mais personnellement, je pense que ce n'est pas de cette façon qu'il faut remercier un contingent qui a travaillé et qui a bien travaillé. On me parle de cas de violence sexuelle, abus sexuels. Ben, un contingent de 800 personnes. Pour 4 cas d'abus sexuels et qui ne sont pas avérés, que nous, la RDC, nous n'avons pas accepté. On remballe tout un contingent. Nous sommes tous des Africains. Nous comprenons. Il doit y avoir beaucoup d'en dessous des cartes.
Esdras Kambale-Baekwa, ambassadeur de la RDC à Bangui. En RDC voisine, 7,5 millions de personnes, soit près de 9% de la population, sont frappés par une crise humanitaire aux proportions massives. Selon l'ONU, l'ensemble du territoire congolais a besoin d'une assistance estimée à 690 millions de dollars cette année. Eric Maniga-Kiza.
Selon le plan de réponse humanitaire 2016 pour la RDC, publié hier par l'ONU, les personnes déplacées sont particulièrement vulnérables et sont souvent accueillies par les foyers démunis. La moitié des enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition chronique. Choléra, paludisme, rouge jaune et fièvre hémorragique font des ravages, a écrit l'Organisation internationale. Le bureau de l'ONU pour la coordination des affaires humanitaires prévoit 690 millions de dollars pour assister 6 millions de personnes cette année sur 7,5 millions de personnes dans le besoin, soit près de 9% de la population du pays. L'est de la RDC demeure la partie la plus frappée avec plus de 1,6 million de déplacés internes l'an passé. Mais la situation de conflit en Centrafrique, au Soudan du Sud et au Burundi risque d'engendrer de nouveaux besoins humanitaires avec l'afflux de nouveaux réfugiés vers le Congo, a déploré l'ONU.
Au Congo-Brazzaville, le Conseil national de lutte contre le sida est en arrêt de travail. Son personnel réclame 20 mois de salaire impayé et refuse donc de travailler. D'autre part, les personnes vivant avec le VIH sont dans le désarroi. Les médicaments ne leur parvenant presque plus, nous dit Nguela Ngusu, notre correspondant à Brazzaville.
Jusqu'à 9h du matin, alors que brûlent les véhicules sur l'avenue Ganga-Edouard, les bureaux du Conseil national de lutte contre le sida à Brazzaville sont toujours fermés, cadenassés et soudés pour être précis. Au fond de la cour se trouve un groupe de travailleurs. Ils sont en grève, ils traînent 20 mois de salaire impayés.
Tous les jours, on est obligé d'être là pour donner un peu un sens à ce que nous réclamons. On a attendu 20 mois et on va attendre le nombre de jours, espérons, qui vont arriver. Et puis bon, c'est vrai que c'est difficile, mais bon. Les autorités qui sont bien placées sauront trouver une solution d'ici là.
Pour Romain Ayessa, un des membres de la coordination des travailleurs en grève, qui explique ici la situation, pas de reprise de travail si les salaires ne sont pas versés.
Nous ne sommes pas payés. Pourquoi accepter que les gens viennent travailler? C'est donc la raison pour laquelle nous avons tout barricadé. On a soudé, oui. En fait, c'est là l'expression vivante de notre fureur. C'est une histoire de bailleur. Depuis un certain temps, le Fonds mondial avait décidé de ne plus prendre en charge tout l'ensemble du personnel. Et donc, il ne peut intervenir qu'au niveau de 7 départements. Mais nous qui sommes victimes, nous ne sommes pas dans la capacité de nous engager et faire un travail. Comme on dit communément, ventre affamé n'a point d'oreille. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes dit, tant que nous n'avons pas notre dû, nous ne pouvons mener aucune action. Et c'est une décision collégiale. Dans les différentes démarches que nous avons pu mener, on a pu saisir les autorités habilitées. Et présentement, ils nous ont rassuré que le dossier a largement avancé.
De leur côté, les malades du sida sont aux abois. Ils ne bénéficient plus de l'assistance que leur apportait la centaine d'agents en grève depuis septembre 2015. Thierry Maba, séropositif et responsable médicament du réseau des positifs du Congo, dénonce le manque d'attention des autorités sur la situation des séropositifs.
Mais c'est depuis longtemps où le CNLS n'a toujours pas l'argent de l'État. C'est là où tous les problèmes ont commencé. Aujourd'hui, on peut parler de la situation du CNLS. Mais qu'en est-il pour l'association des ARV? Il faut aller voir là où on stocke les médicaments des personnes vivant avec le VIH. Et même actuellement, où je vous parle, nous sommes en rupture de stock. Et cette rupture est devenue une rupture chronique. La coordination ne marche pas. Donc c'est vraiment la débandade.
Inquiet, mais toujours avec une lueur d'espoir, un agent lance, nous venons de commencer notre 21e mois sans salaire, Nguela Ngoussou, Brazzaville, La Voix de l'Amérique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Afrique de l'Ouest maintenant, en Mauritanie, une trentaine d'islamistes emprisonnés à Nouakchott ont annoncé aujourd'hui dans un communiqué envoyé à l'AFP avoir entamé une grève de la faim illimitée pour réclamer l'amélioration de leurs conditions d'incarcération qui se sont dues aussi, selon eux, après l'évasion de détenus djihadistes. Les prisonniers exigent notamment des visites de leurs parents sans entrave et la fourniture des médicaments prescrits en temps opportun. Ils estiment que des mesures punitives ont été prises contre eux depuis la fuite de Salek Oulchek, un djihadiste mauritanien condamné à mort en 2011 pour action terroriste après l'opération à la voiture piégée d'Al-Qaïda au Maghreb islamique qui visait à assassiner le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz. Saled Oulchek s'est évadé de la prison centrale de Nouakchott le 31 décembre 2015 et il est toujours en cavale. Afrique du Nord, l'Italie a évacué 15 policiers libyens blessés dans l'attentat du 7 janvier revendiqué par l'organisation État islamique. Attentat à Zlitten. L'évacuation fait suite à une demande du Premier ministre désigné libyen Fayez El-Serraj. L'attentat au camion piégé contre un centre de formation de la police a fait plus de 50 morts et une centaine de blessés. On passe maintenant aux Amériques. Le processus d'extradition vers les États-Unis du baron mexicain de la drogue Joaquin El Chapo Guzman prendra au moins un an, voire beaucoup plus, si ses avocats utilisent tous les recours légaux. C'est ce qu'ont averti les autorités mexicaines. Plus de détails avec Chérubin Dorsil.
Des représentants d'Interpol se sont rendus dimanche à la prison d'Altiplano, où le baron de la drogue est de nouveau incarcéré, pour délivrer deux mandats d'arrêt aux fins d'extradition. Le gouvernement mexicain a précisé avoir reçu une demande formelle des États-Unis le 25 juin, deux semaines avant l'évasion. Ce processus pourrait durer au moins un an, voire beaucoup plus, a averti hier José Manuel Merino Madrid du bureau du procureur du Mexique. L'avocat d'El Chapo ne se laissera pas faire car il a assuré qu'il mènera une bataille juridique sans fin, pouvant aller jusqu'à la Cour suprême au motif que son client risque la peine de mort aux États-Unis. Le chef du cartel de Sinaloa fait l'objet de poursuites dans plusieurs États américains. Joaquin El Chapo Guzman a été arrêté vendredi, 6 mois après son évasion rocambolesque de la prison de haute sécurité d'Altiplano le 11 juillet dernier. C'était la deuxième fois que le narcotrafiquant s'échappait d'une prison mexicaine après une première évasion en 2001 dans un panier de linge sale.
Et pour terminer ici aux États-Unis, le président américain Barack Obama prononce ce soir son ultime discours sur l'état de l'Union face au Congrès réuni au grand complet. Le président américain est déterminé à mettre en valeur son bilan, mais aussi à livrer sa vision de l'Amérique au-delà de 2016, Anne Albertson.
Pour le 44e président des États-Unis, ce rendez-vous traditionnel est la dernière occasion de s'adresser aux Américains en prime time, avant que Washington et le reste du pays ne basculent complètement en mode électoral. Candidat démocrate et républicain à la présidentielle s'apprête en effet à entrer dans le vif du sujet, avec le début des primaires le 1er février dans l'Iowa. Axe attendu du discours présidentiel, le rebond de l'économie et le chemin parcouru depuis son arrivée au pouvoir en janvier 2009, pendant la plus grave crise depuis les années 1930. Le tableau est loin d'avoir impressionné Donald Trump, en tête dans les sondages du côté républicain. Le milliardaire a dressé un bilan autrement plus sombre des années Obama. « Le pays ne va pas bien », a-t-il lâché. « Nous sommes assis sur une énorme bulle prête à exploser ». À 12 mois de son départ et face à un Congrès dominé par les Républicains, le président Obama veut assurer qu'il a toujours le pied au plancher. La Maison-Blanche en donne pour preuve une série de succès sur des dossiers emblématiques, nucléaire iranien, libre-échange en Asie-Pacifique ou encore changement climatique, avec l'accord de Paris en décembre.
Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com ou alors sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.